et à tous sur le site Spartagri Forum, sur notre chaîne YouTube et ici à Aurillac, à l'hôtel du département, pour la deuxième partie de cette deuxième édition du Spartagri Forum, totalement consacrée à la question des circuits courts. Alors, dans circuit court, il y a circuit, il y a court. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on produit localement et qu'on vend localement? C'est une manière de le dire. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un intermédiaire, maximum deux, dans la chaîne entre le producteur et le client? C'est une autre manière de le dire. C'est là-dessus qu'on va travailler cet après-midi avec nos intervenants. Bruno Faure, au centre du plateau, président du conseil départemental du Cantal. Jean-Baptiste Vervy, qui nous rejoint via Zoom. Voilà, Jean-Baptiste Vervy, président de CoFarming, fondateur de Wheezy Farm, activateur des bras pour notre assiette, une action qui a beaucoup fait parler d'elle pendant le premier confinement, qui était tout à fait bienvenue. Donc merci d'être avec nous, Jean-Baptiste.
Merci, bonjour, ouais. Je suis très content d'être avec vous.
Bienvenue dans le Cantal.
Un peu de loin, mais...
Tu es où? Tu es dans la Meuse?
Dans la Marne.
Dans la Marne, pardon, excuse-moi. Ouais. Bon, il fait beau?
Oui, ça va.
Menteur.
C'est beau. Il fait beau.
Merci Jean-Baptiste. Alexia Deltreil et Pauline Viget, voilà, vous représentez la Chambre d'agriculture du Cantal et vous êtes notamment en charge du drive fermier Cantal. On va voir que c'est un très très bon exemple pour toutes les réflexions qu'on va pouvoir avoir. Laurent Nègre, responsable du marché agriculture et viticulture à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. On va parler de la question des paiements, on va parler de la question de la stratégie qu'on peut avoir en tant qu'agriculteur pour générer du revenu additionnel. Mais clairement, on crée une nouvelle business unit. On va voir que c'est pas si simple et à la fois pas si compliqué. Et Christophe Romero, donc responsable commercial départemental de Groupe Amadoc. On va voir cette question-là aussi avec vous. Le Groupe Amadoc a beaucoup travaillé cette question des circuits courts également, donc on va y revenir avec vous. Et enfin, Henri Landès. Henri Land, moi je dis toujours Landès, mais je me fais reprendre à chaque fois. Henri, faut mettre ton micro, fondateur de Landestini avec son épouse Fanny Agostini.
Elle est là. Et c'est bien Landès, Sébastien.
On est bon alors.
Et Fanny Agostini, elle est là. C'est juste, on se partage notre petit garçon. On est seulement nous deux aujourd'hui.
Oui, c'est Darwin que j'entends derrière. D'accord, super. OK. Donc, Landestini qui a créé ici, il y a un an, un incubateur dédié à l'agriculture et l'alimentation juste et durable. Voilà, qui nous donnera son regard sur la contribution des circuits courts à cette nouvelle économie agricole, peut-être plus vertueuse, plus juste, à la fois pour les consommateurs et pour les agriculteurs eux-mêmes. Donc, sans plus attendre, Bruno Faure, Monsieur le Président, il y a quelque chose qui existe déjà ici, et on le voit d'ailleurs sur ce panneau ici, dans le Cantal, une action collective qui s'appelle AgriLocal 15. Ça paraît très simple comme ça, mais aujourd'hui, il n'y a que 36 départements qui font la même chose que le Cantal a fait dès le début. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le potentiel de cette nouvelle manière? Je rappelle, AgriLocal, c'est les agriculteurs du Cantal qui produisent ce qu'on va manger les Cantaliens, dans les cantines, dans les EHPAD, dans ce qui relève de la restauration collective.
Alors, c'est un peu plus large que les agriculteurs. Hein. Ça peut être des artisans locaux qui fabriquent.
Et qui transforment.
Voilà, on est dans le circuit court. J'allais dire, simplement, effectivement, l'idée, c'est de proposer une place de marché, une place d'échange pour les producteurs. Alors, c'est vrai qu'une majorité sont agriculteurs ou de l'artisanat local, avec la restauration hors foyer. Donc forcément, on va retomber sur les écoles primaires, on va retomber sur les collèges, pour ce qui nous concerne, les lycées, voire tous les établissements publics, tels que les EHPAD ou encore l'hôpital d'Aurillac. Enfin, les hôpitaux, c'est l'ensemble de ces structures-là. Donc, ce que fait le département, c'est offrir cette place de marché. Alors, après, ensuite, il faut arriver à mobiliser l'ensemble des producteurs. Aujourd'hui, ça fonctionne. On en a plus de 170 qui sont dessus. Alors, il faut quand même imaginer plus de 170, mais plus ou moins actifs. Hein, parce qu'il ne suffit pas d'être inscrit sur une plateforme pour que ça fonctionne. Il faut faire vivre son offre, il faut la présenter, enfin, il y a tout un tas de choses. Et puis, on a les clients de l'autre côté qui sont des clients publics. Là aussi, Il ne suffit pas d'imaginer de mettre une plateforme pour que ces derniers viennent acheter. Il faut aller les voir. Il faut ce qu'on fait au niveau du département, on leur simplifie la démarche. Vous allez sur cette plateforme, vous pouvez commander directement au producteur ou au fabricant. Simplement, il y a tout le travail à faire j'allais dire, pour aller voir cet acheteur et lui dire que c'est quand même mieux d'acheter local que d'acheter chez un autre fournisseur.
Et ça, c'est tout le travail de conviction en amont, quoi.
C'est un travail essentiel. Et là, il faut imaginer quand même qu'on est sur le domaine concurrentiel. Sur le domaine concurrentiel, bien sûr, il y a du prix. Alors, on peut mettre en face de la qualité, on peut mettre en face du prix parce que la démonstration est faite que ça n'est pas plus cher, effectivement, d'acheter localement sur ces plateformes que d'acheter chez des grands faiseurs. Mais après,
la démonstration est faite.
La démonstration est faite, oui, tout à fait.
C'est important.
Mais il y a le marketing. J'allais dire, il y a le marketing. Aujourd'hui, une des difficultés que l'on a, si je prends l'exemple des collèges, on ne maîtrise pas les collèges. Hein, c'est souvent le gestionnaire. Alors, bien sûr, le chef cuistot relève du département. Par contre, celui qui fait l'acte d'achat, celui qui signe le bon de commande, c'est le gestionnaire qui relève de l'éducation nationale. Donc, nous n'avons pas la main dessus. Et force est de constater, lorsqu'on regarde, des fois, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a du travail marketing sur les grandes plateformes. Enfin, tout le monde sait comment ça marche. Hein. À partir du moment où vous faites tant de chiffre d'affaires, vous avez des réductions, vous avez des cadeaux, vous avez des choses de ce type-là que nous, on ne sait pas forcément faire au niveau local parce qu'on n'est pas forcément rompu à ces systèmes-là. Mais de l'autre côté, ce qu'il faut qu'on arrive à mettre en avant, c'est j'allais dire, la tendance sociétale, la volonté sociétale. On veut manger sain, on veut manger local, etc. Et donc, on est en concurrence, effectivement, avec ces objets marketing. Ce qu'on a essayé de faire avec cette plateforme, c'est de faciliter la mise en relation entre le producteur et l'utilisateur. Mais ça va au-delà, effectivement, de la plateforme numérique que l'on a pu mettre en place.
Oui, il y a tout ce qu'on appelle une plateforme relationnelle. Et aujourd'hui, comment vous considérez effectivement cette opération qui a été activée quand, AgriLocal 15, ça a été lancé quand?
Il y a quelques années, je vais regarder.
Marie-Hélène Roquette est avec nous.
2014,
donc il y a 6 ans.
Il y a 6 ans. Nous sommes en progression. Alors, bien sûr, sur 2020, il y a eu un arrêt avec la crise sanitaire que nous connaissions, la fermeture des collèges, enfin, etc. Donc, il faut reprendre, non pas le travail à la base, mais il faut quand même remettre une dynamique. Ce que l'on peut observer, c'est qu'on avait une progression des chiffres d'affaires parce qu'aussi, on a une gamme qui arrive à s'étoffer. Et une des difficultés que l'on a aujourd'hui, ce que je disais ce matin, effectivement, c'est la logistique. Puisqu'entre un producteur et un utilisateur, c'est comment je fais passer le produit, comment j'organise mes commandes, et tout ça avec de l'économie. Hein, parce que dans un département comme le Cantal, c'est encore plus cru que dans un département un peu plus urbain. Mais le coût du kilomètre, le coût de livraison de logistique
peut être élevé
en fonction du nombre de kilos, du nombre d'unités que l'on a à faire.
Donc, de l'enneigement de la route.
De l'enneigement de la route, etc. Donc, on a tout un travail d'organisation de cette logistique, de regroupement de commandes et voilà, à faire.
D'accord. Et ça, c'est la plateforme AgriLocal qui organise cette logistique
Alors, pour le moment, non. La plateforme organise le contact.
D'accord.
Ceci dit, nous sommes organisés avec la Chambre de culture puisqu'on estime que c'est une démarche importante. Pour favoriser le développement, pour favoriser l'appropriation par l'ensemble des clients potentiels. On a mis en place un service où la Chambre et Culture met à disposition un véhicule et le département met à disposition un chauffeur pour effectivement ces livraisons. Donc, on essaie de travailler par zone. Il y a eu un appel à candidature qui a été réalisé auprès de différents établissements qui organisent de la restauration, que ce soit des collèges, que ce soit des EHPAD ou quoi, puisque un département est vaste. Aussi, si on peut organiser des livraisons un jour donné sur l'ouest, sur l'est, le nord ou le sud, ça permet de mutualiser les coûts de transport. Mais bon, ça, c'est logistique où nous, on doit se roder et puis où les clients doivent aussi se l'approprier.
Merci. Merci beaucoup, Bruno Faure. Jean-Baptiste Vervy, au sein de l'association que vous présidez, CoFarming, il y a de mémoire un certain nombre de startups qui sont dans cet univers des circuits courts, je pense à Ferme Direct notamment. Comment vous-même et au sein de l'association CoFarming, mais peut-être d'abord nous rappeler ce qu'est CoFarming, mais après, comment vous regardez cette question des circuits courts, puisque vous êtes allé jusqu'au circuit court des bras pour nos assiettes jusqu'au circuit court de la ressource humaine. Comment vous regardez cette question de manière plus large ?
Okay, merci. Donc, alors, effectivement, rappelez ce qu'est le co-farming. Le co-farming, c'est une association de startups qui ont 18 startups désormais et qui ont un trait d'union, c'est qu'on est tous un peu sur l'économie collaborative. C'est-à-dire qu'on met en réseau des agriculteurs entre eux, sachant qu'il peut y avoir des sources de progrès, donc on partage du matériel, de connaissances, de savoir, mais aussi se connecter avec justement les consommateurs. Et donc, au travers de quelques plateformes, c'est vrai qu'on est dans le sujet des circuits courts. Alors, il va effectivement en ferme directe qui permet d'associer les producteurs vers en fait les circuits de distribution et de contractualiser tout en ligne, mais aussi des circuits courts un peu différents par rapport à ce qu'on connaît, dans le sens où vous avez Agricoli.
Il faut peut-être redire ce que c'est Agricoli, parce que tout le monde ne connaît pas forcément.
Il peut être un peu connu dans le paysage, mais Agricoli, c'est le point relais colis que vous trouvez en ville ou dans un village dans votre bar tabac. Sauf que quand vous achetez une machine à laver en ligne, vous ne l'avez pas forcément dans votre bar tabac, c'est un peu gros. Et donc, l'idée, c'est d'aller le prendre en retrait en fait, sur les exploitations agricoles. Et ça, en fait, les exploitations agricoles qui sont un peu malines, qui font du circuit court, ils se labellisent relais colis. Et ça amène en fait une clientèle supplémentaire. Il faut savoir d'ailleurs que ce type d'initiative chez Agricoli, il y a 200 fermes aujourd'hui qui sont labellisées. Le revenu moyen mensuel est de 500 euros pour distribuer ces colis. Quand vous êtes en bord de ville, alors c'est un peu moins vrai dans le Cantal, mais en bord de l'île, vous avez les 2-3 agriculteurs qui sont là-bas qui font entre 2 et 3 000 euros de revenus mensuels pour distribuer les colis. Et si vous êtes vendeur de fraises, eh bien c'est très pertinent de faire venir.
Ces revenus additionnels, c'est pas les agriculteurs qui sont payés pour réceptionner les colis,
si. Ils sont payés pour distribuer le colis. Voilà, ils sont payés 3 ou 4 euros pour redonner le colis.
Oui,
ils ont reçu un SMI de colis.
D'accord.
Hop, et puis après, ils reçoivent les clients un par un et ils leur donnent les gros colis. Et dans les fermes, il y a souvent des moyens de levage, donc les grosses charges, c'est pas vraiment un problème.
Et en plus, est-ce que vous avez mesuré les ventes additionnelles pour ceux qui font effectivement de la vente directe à la ferme ? Parce que je viens récupérer ma machine à laver, je vois qu'il y a une petite boutique de produits, je peux être tenté d'acheter.
Ouais. Alors moi, je suis pas porteur de cette plateforme-là, donc j'arrive pas les infos en détail.
Oui.
Mais c'est à peu près sûr en fait qu'il y a un impact. L'agriculteur profite aussi, et s'il est malin, et c'est là où on peut aussi aborder le sujet des circuits courts, c'est justement l'approche marketing et commerciale des agriculteurs, et là il peut y avoir des variants. Mais si l'agriculteur est malin dans le cas d'Agricoli, et qu'il fait un peu comme Ikea, c'est-à-dire son point relais colis, il faut forcément passer par le magasin, bon, il y a peut-être quand même un petit peu plus de chances qu'il effectivement dope un peu ses ventes.
Il peut vendre des boulettes de rennes.
Tout un tas de produits, effectivement. Oui.
Donc je voulais parler effectivement il y a cette vision du circuit court, donc être malin, créer des points de contact, s'organiser en fonction. Pendant la crise, donc il y a eu des bras pour votre assiette, mais vous avez pu aussi regarder l'ensemble du phénomène circuit court. On a dit dans les médias que c'était un peu une passade, que les gens juste après le confinement étaient retournés dans leurs centres commerciaux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a eu une forme de permanence ou de rémanence des circuits courts dans les territoires de votre connaissance ?
Ah ouais. Alors là-dessus, ce que je voulais repréciser, c'est que donc dans le co-farming, il y a quelques startups qui maîtrisent le sujet. Moi-même, je suis agriculteur aussi en étant président du co-farming, et je gère aussi une startup qui s'appelle Wheezy Farm, sur lequel on est en train de réfléchir et de travailler sur les sujets directement des circuits courts. Donc effectivement, avec ces différents éclairages, je peux apporter un complément. C'est ce qui est sûr, c'est que on a quand même globalement constaté sur la France entière qu'il y a eu un boom en fait de la consommation pendant cette phase-là. Il y avait aussi toute une partie de la population qui avait largement le temps d'aller se promener plus de 2 heures pour aller acheter un poulet. C'était sorti une très bonne occasion de sortir. Et beaucoup, je suis un peu caricatural, mais ce qui est beaucoup moins vrai quand vous finissez votre travail à 18 heures, vous avez récupéré vos enfants à la crèche et qu'après il faut continuer en fait le reste de la soirée. Et là, ça pose. Alors ça, c'est génial parce que ça montre qu'il y a un marché qui tend les bras en fait aux producteurs. Et ça a été dit ce matin. Le gros point noir, en fait, c'est la logistique. C'est le boulet le plus important en fait sur ce sujet-là. Et là, il y a plein de réflexions, il y a beaucoup d'initiatives, même d'ailleurs, il y a aussi beaucoup d'initiatives, beaucoup de plateformes qui se mettent en place. Alors, nous, on a eu des retours d'agriculteurs, parce qu'on teste des choses en ce moment, où il y a tellement d'initiatives, il y en a eu tellement pendant les circuits courts, il y a des producteurs, en tout cas dans mon secteur, qui ne savaient pas à qui faire confiance. Et qui disaient, moi, les plateformes, vous me prenez 30%, je ne sais pas, oui, je ne sais pas, et puis bon, vous êtes le deuxième déjà cette semaine, pourquoi vous, pourquoi pas un autre. Et on a vu quand même une certaine réticence. Sur le deuxième confinement, ça va déjà un peu mieux parce que, bon, c'est quand même sorti un peu de calme. Mais on a toujours le réflexe des agriculteurs de dire, non, mais le mieux, c'est que les gens viennent chez moi ou sur mes marchés. Or, ce n'est pas forcément là où sont les consommateurs. Quoi. Ouais. Et donc là, c'est une difficulté. Et puis là-dessus, moi, j'invite à écouter pour ceux qui s'intéressent à CFQA, s'ils ne connaissent pas Olivier Daugé, qui est un spécialiste de la question du commerce dans l'agroalimentaire. Il y a une paire de vidéos qui sont très intéressantes. Et il y a un sujet dans l'agriculture, je trouve, parce qu'on parle de logistique, on peut parler du numérique, on peut parler de plateforme en ligne. Donc, quand on parle de drive, tout va à peu près bien. Mais parfois, certains disent on va faire un peu de vente directe et on va envoyer directement au domicile de la petite madame qui ne veut pas se déplacer. Sauf qu'après, il y a un rapport de coût entre le coût du transport et le prix de son produit. Et à un moment donné, ça peut vite s'arrêter. Entre un produit qui va peser 5 kilos, il va être acheté 3-4 euros et un coût du transport qui va être à peu près autant que la valeur du produit ou plus. Et là ça pose tout de suite une limite. C'est vrai qu'il y a un vrai défi sur la logistique et il n'y a pas beaucoup de miracles quand même malgré toutes les innovations. C'est quand même si de rapprocher peut-être un peu façon click and collect, de rapprocher on va dire ces points de distribution proches des consommateurs, mais il y a encore pas mal de boulot sur le sujet.
Super, merci là, Jean-Baptiste. Oui.
Ouais. Et alors du coup tu me tendais la perche tout à l'heure avec le circuit court et des bras pour ton assiette.
Et ressources humaines, oui.
Ouais, alors c'est vrai que on va faire un petit peu un grand écart. On peut quand même se retrouver, c'est que tout agriculteur qui développe en fait son activité est souvent confronté à l'emploi, et l'emploi peut être un facteur limitant tant dans les activités circuit court que aussi dans des changements de pratiques chez les exploitations, des exploitations qui passent en bio ou pas, et il faut quand même du monde pour travailler sur des pratiques. Nous, en fait, effectivement, le petit parallèle, c'est avec WeezyFarm, on avait développé on a mis en avant notre plateforme de matching, de mise en relation entre les agriculteurs et consommateurs. Et effectivement, il y a eu 350 000 inscrits sur la plateforme.
350 000.
Ouais. C'est-à-dire que quand les annonces sont sorties, on a pris 40 000 personnes la première journée, 42 000 la deuxième et à peu près 39 000 la troisième. Et ça a duré comme ça pendant quelques jours. Donc, c'était un bon rythme. Et en fait, alors, ce qui était très bien, et le bilan qu'on peut faire de tout ça, ce qui était très bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à l'agriculture pendant cette phase-là. Il y a eu trois cibles de gens qui sont venus, des gens qui avaient vraiment besoin de gagner de l'argent et qui se sont dit, tiens, l'agriculture, c'est à côté de chez moi et je peux y travailler. Et ça, c'est quand même super. Et c'est ça pour là-dessus qu'il faut communiquer. Il y a des gens qui voulaient aider et puis il y a des gens qui voulaient surtout sortir de chez eux. Il a fallu un peu trier un peu tout ça. Il faut se remettre dans le contexte où vous avez des gars, ça fait 3 mois qu'ils étaient enfermés dans leur appartement parisien. Ils avaient quand même envie de bouger. Et ça, c'est effectivement, nous, on continue sur ce sujet-là aujourd'hui pour essayer d'amener des gens, et c'est encore plus vrai en ce moment avec la crise économique dans laquelle on va rentrer, d'amener des gens peut-être aussi d'autres secteurs à venir travailler un petit peu ou durablement, pourquoi pas développer des projets, alors après on pourra faire le lien avec tout à l'heure Henri, développer des projets sur l'exploitation, mais pour essayer d'amener effectivement des gens à ces métiers.
Merci Jean-Baptiste de la Marne de cet éclairage. On vous garde en ligne. Vous évoquiez d'ailleurs à l'instant la question du drive, ça paraît plus simple. Hein, effectivement, le drive fermier, on n'a pas cette question de la logistique puisque les gens viennent directement au point donné. C'est ce que donc Alexia Deltreil et Pauline Viget de la Chambre d'agriculture du Cantal pilotent au quotidien. Alors, quelques chiffres peut-être, et puis après vous allez nous dire votre secret. Et je parle sous votre contrôle, donc 30 producteurs. Avant le confinement, tranquillement, une moyenne de 50 commandes par semaine. Pendant le confinement, on monte à 300. Et après le confinement, on continue à 150, 200. C'est ça ? 150. Et déjà, vous avez des demandes extraterritoriales. Alors, peut-être revenons sur l'histoire de cette plateforme, de ce drive. Expliquez-nous comment ça marche, comment vous avez recruté les producteurs, et puis voilà, la petite histoire. Il est allumé, hein, normalement, par défaut. Vous pouvez enlever le masque, hein, quand vous parlez et le remettre après.
Ça sera plus confortable, oui, pour tout le monde. Oui, oui. Bonjour, Alexandre Treille, Chambre d'agriculture du Cantal, donc co-animatrice Bienvenue à la ferme et Drive Fermier 15 avec Pauline Vigé, qui prendra la parole ensuite. Donc oui, un petit tour d'historique, c'est-à-dire on va commencer par Bienvenue à la ferme, hein, qui est un peu l'origine de tous les projets en cours et en projet. Bienvenue à la ferme, c'est quoi ? Donc, c'est une marque des chambres d'agriculture avec deux grands aspects, vivez fermier et mangez fermier.
Ça a été lancé quand, pour mémoire, Bienvenue à la ferme ?
Années 80, oui. C'est une marque qui est ancienne et reconnue
c'est ancien,
aujourd'hui.
Ça fait presque une quarantaine d'années, oui. Pardon, Alexia.
L'idée, c'était de valoriser ce qui était fait dans les fermes, donc à la fois le tourisme fermier, au sens large, les activités à la ferme, et aussi manger fermier, et ça c'est une partie importante, c'est-à-dire garantir en fait aux consommateurs, par un cahier des charges, que les produits qu'ils achètent sont bien fermiers. Ça c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, donc en respectant des cahiers des charges. Donc ça c'est aujourd'hui le seul outil qui garantit d'ailleurs ça aux consommateurs. Donc, un groupe d'agriculteurs de Bienvenue à la ferme en 2014 avec l'animatrice de Bienvenue et la Chambre d'agriculture qui commercialisait principalement sur les marchés. Après un moment de concertation, on se dit c'est quand même dommage, nous sommes un groupe, nous sommes un réseau et on pourrait peut-être proposer nos produits ensemble. Parce que comme il a été dit, la question de la logistique, et puis il s'était dit aussi avant, on a des clients qui ont un travail, qui ont aussi besoin de temps, qui ne sont pas forcément intéressés par les marchés ou pas de manière régulière. Donc c'était intéressant peut-être de proposer un nouvel outil et surtout un outil qui permet de trouver tous les produits au même endroit. Donc de là, elle est venue il y avait une réflexion aussi nationale, hein, parce que comme on dit, Bienvenue à la ferme, c'est un réseau national, donc c'est aussi la force. Donc ça a été une réflexion autour de plusieurs groupes Bienvenue. Et ça a amené à la création d'un drive fermier avec trois points de livraison, Aurillac, Prunet et Murat. Prunet et Murat donc, sont chez des producteurs Bienvenue à la ferme et du drive.
Alors, ces points de livraison, ils ont quelle configuration ? On a besoin de quoi pour créer un drive ? Je suis une commune, demain j'ai envie de créer un drive fermier. C'est quoi le package minimum ?
Alors, déjà un groupe d'agriculteurs motivés et qui garantit aussi voilà, avec des pratiques, ça c'est vraiment très important parce que vraiment, je le répète, notre drive il est fermier. Ça c'est vraiment une spécificité et c'est vraiment très rare de trouver cette garantie-là. On ne critique pas le marque d'artisanat, mais c'était un choix.
Il y a ce label-là, il y a cette estampille,
c'était un choix.
C'est une volonté d'exigence.
Voilà. Après, donc il y a ça, et après, il y a tout ce qui est aspect pratique, on va dire outils. Donc, il nous faut évidemment une chambre froide pour garantir la bonne hygiène de nos produits, un groupe, évidemment, un animateur ou une animatrice. Évidemment.
Quand vous dites aussi. Un groupe, c'est un groupe électrogène ?
D'agriculteurs et ensuite l'électricité c'est mieux pour la chambre froide après. Après on peut essayer peut-être de pédaler, mais non, mais en fait c'était exactement ça aussi l'avantage, c'est qu'il y aurait pu avoir une réflexion autour d'un magasin, mais le drive en fait permet d'avoir un jour de livraison ou plusieurs mais de limiter et d'avoir moins d'investissements nécessaires en local, etc. On a besoin d'une chambre froide évidemment, d'un espace pour préparer les commandes. Mais ça demande finalement assez peu de place ou un espace qui peut être partagé.
Puis j'imagine qu'il faut un peu de stationnement. Quoi. Enfin...
Alors, il faut surtout pouvoir passer, parce que le principe quand même, de notre drive ici, c'est vraiment d'avoir un drive, comme le nom l'indique en anglais, donc une voiture. Oui. Donc, effectivement, il faut avoir un espace pour pouvoir circuler pour les voitures. Voilà. Et bien sûr, il nous faut un site internet qui fonctionne bien. Ah oui. Parce que voilà, donc Bienvenue à la ferme à son site internet lui, mais qui est plutôt une vitrine. Là, il nous faut un site internet qui fonctionne et qui permet de commander en ligne et aussi une banque derrière avec tout un réseau, donc là qui est le Crédit Agricole.
Pourquoi une banque ? Pour les paiements ?
Pour les paiements, oui. D'accord. Parce qu'en fait, là, on est vraiment sur un 100% drive. Donc les clients en fait commandent en ligne, payent en ligne avec une carte de crédit. Et ensuite vont récupérer leur commande. Donc ça, c'est vraiment très pratique puisque ça permet un seul paiement pour le client alors qu'il a peut-être 20 producteurs dans son panier.
Et est-ce qu'on peut faire des achats d'opportunités, des achats additionnels sur place ?
Tout à fait, puisque les deux points de livraison de Prunet et de Murat sont chez des producteurs donc, qui font de la vente à la ferme, hein, qui sont bienvenus à la ferme. Donc, il peut tout à fait y avoir consommation de leurs produits sur place en
D'accord.
plus.
D'accord, ok.
Voilà, sur le drive, je vais passer, donc là c'est en routine, et puis je vais laisser Pauline prendre la parole sur le confinement, puisque Pauline a fait une étude de marketing dont elle va nous donner les grandes conclusions.
Les grandes lignes. Merci beaucoup, merci Alexia. Pauline.
Après le premier confinement, on a interrogé les nouveaux clients et les clients fidèles du Drive Fermier pour voir ce qui leur plaisait tant dans cet outil. Et en fait, ce qui plaît aux différents clients, c'est que c'est une solution rapide, pratique. Il y en a par exemple qui ne souhaitent pas attendre au marché ou des choses comme ça. Des actifs qui, voilà, après le travail, peuvent passer 2 minutes au drive et récupérer leur panier qui est directement déposé dans leur coffre. Donc, c'est une solution qui convient à pas mal de monde. Et en fait, le fait d'avoir réuni des moyens logistiques dans un local avec une chambre froide, ça nous a donné d'autres idées et d'autres pour mettre en place d'autres débouchés. Et actuellement, on est donc en train de réfléchir à profiter de ce local et de ses moyens pour, par exemple, organiser des livraisons hors département avec ChronoFresh. La chambre froide peut également servir à rassembler des produits pour la restauration collective. Et là, actuellement, comme on a un groupe de producteurs qui travaillent bien ensemble, qui se connaît depuis 6 ans, on fait aussi, par exemple, des colis de Noël. Donc, on est arrivé un petit peu en retard parce qu'on faisait encore des livraisons. Donc, on sait qu'il y a des gens qui vont être gâtés pour les fêtes. Mais...
Vous faites tout.
Il faut s'investir. Ouais. Donc, c'est vrai que... On a un groupe qui fonctionne très bien et on a plein d'idées pour eux, pour les aider à continuer à vendre partout dans le Cantal et même hors Cantal avec les bons produits qu'ils proposent.
Parce que c'est ce que vous me disiez, un certain nombre de personnes sont venues dans le Cantal pour le confinement, qui n'en étaient pas originaires, ont goûté au drive et maintenant, depuis Paris, depuis Toulouse, depuis Lyon, ils vous disent comment je peux continuer effectivement à consommer. Donc ça, c'est en train de s'organiser. C'est déjà possible ou
Pour tout vous dire, on va mettre ça en place fin janvier avec un nouveau site qui nous permettra de gérer les deux. Ouais.
D'accord. Alors, moi, il y a une question qui me taraude un petit peu. C'est 30 producteurs. Je me dis que c'est peut-être pas beaucoup par rapport au nombre de producteurs d'un territoire comme le Cantal. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça représente par rapport et quelle est votre marge de progression pour mobiliser encore plus de producteurs? Est-ce que c'est dans votre feuille de route? Parce que je me dis que 30, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Moi, ça me paraît pas beaucoup parce que je me dis que des producteurs, il y en a énormément dans le Cantal, mais peut-être que c'est une vision un peu biaisée. Peut-être que le drive, c'est pas fait pour tous les producteurs. Je ne sais pas.
Bien sûr, c'est pour ça que moi, à titre personnel, j'accompagne pas uniquement le groupe du Drive, j'accompagne les producteurs Bienvenue à la ferme, j'accompagne les agriculteurs individuellement qui veulent par exemple créer leur propre site e-commerce individuellement.
Oui.
Il y a plein de possibilités. Ouais.
Est-ce qu'il y a de nouveaux entrants? Est-ce qu'il y a des agriculteurs aujourd'hui qui frappent à votre porte pour dire j'aimerais bien rejoindre l'équipe du Drive?
Bien sûr, bien sûr.
Oui, ça reste ouais, ouvert.
Ça reste ouvert. Pour l'instant, on a une gamme qui permet de couvrir les achats courants. On a plusieurs maraîchers, plusieurs fournisseurs de porc, charcuterie, bœuf. On a une gamme assez variée. Peut-être que notre marge de progression, ça serait sur les fruits. On cherche des fruits. Tout ce qui est achat d'impulsion, épicerie, peut-être des choses comme ça.
Et ça manque peut-être un petit peu dans l'offre catalogue. Si vous pensez, nos amis agriculteurs du Cantal qui nous regardent, si vous faites de l'épicerie, des fruits, n'hésitez pas à rejoindre la team du Drive Fermier 15 sans tarder. Super, bravo. Bravo, bravo. Aujourd'hui, est-ce que les agriculteurs du groupe savent dire, les recettes additionnelles que ça génère, comment ils vivent ce néo-business? Est-ce que ça commence à peser lourd pour eux?
Oui, tout à fait. Pour tout vous dire, il y en a qui pensent même à abandonner certains marchés parce que le drive devient de plus en plus intéressant pour eux. Et c'est aussi plus pratique pour certains, par exemple, notamment des producteurs de produits frais, qui nous disent, mais en fait, nous, ce qu'on amène au drive, on sait que c'est vendu.
Et oui, c'est déjà
vendu. Alors que sur un marché, on peut repartir avec des produits sur les bras. Voilà.
Oui, ce qu'il disait beaucoup, c'est qu'on n'est pas sûr de vendre ce qu'on a préparé, mais on y a mis le temps de travail. Et là, le temps de travail qu'on met au drive, parce qu'en fait, ça, c'est important de le dire, les permanences sont faites par les producteurs. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel on tenait et on voudrait sûrement conserver pour garder ce lien circuit court entre le consommateur et le producteur. Il disait effectivement, voilà, certains producteurs se posent la question d'abandonner certains marchés pour le drive, pour mettre plus d'énergie et de produits sur le drive.
Ah oui, ça va loin, effectivement. Parce que c'est vrai qu'ils peuvent repartir avec du produit frais, avec rupture de la chaîne éventuellement. Enfin, il y a des contingences, effectivement, qui sont liées à ça. Un bravo pour ce que vous faites au quotidien. Je crois que sur Internet et ici, on va vous applaudir pour ce que vous faites chaque jour. Bravo, c'est super. On a parlé effectivement du rôle des banques hein, dans cet écosystème et de ce que ça implique. Parce qu'effectivement, tout d'un coup, on devient vendeur. On tient boutique, si je puis dire, dans le circuit court, que ce soit à la ferme, que ce soit à travers un drive, que ce soit en click and collect. Donc, Laurent Nègre, du côté de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, comment vous accompagnez cette création de nouvelles activités sur le plan, peut-être, commençons par le basique, l'encaissement, parce que ce n'est pas si simple.
Alors, merci déjà à Sébastien, merci au conseil départemental pour nous accueillir. Ce que je voulais faire, c'était d'illustrer un peu mon propos déjà sur l'évolution des flux et l'évolution des paiements sur les circuits courts pendant la période. Donc, j'ai analysé l'activité des agriculteurs et viticulteurs clients de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes et qui vendent aujourd'hui en circuit court. Donc pour ça, c'est tout simple. Hein. J'ai regardé comment évoluaient le volume, les flux de paiement par carte bancaire sur nos clients, spécifiquement sur les clients agriculteurs et viticulteurs. Et alors que globalement, les flux carte bancaire baissaient globalement, puisque l'activité avait globalement chuté, sur les agriculteurs et les viticulteurs, on a constaté une progression des paiements par carte bancaire de plus de 30%. Donc, sur les 10 premiers mois de l'année, plus de 30%. Avec un pic, bien entendu, pendant la période de confinement. Sur les derniers mois, là, on a constaté une légère baisse, mais les flux restent globalement plus élevés que l'année prochaine.
Pas un retour à l'état initial.
Non. Il y a vraiment une tendance de fond. Alors, nous, on intervient sur l'ensemble de la région Aura et on a constaté effectivement des régions qui ont complètement explosé. C'est le cas de la Drôme, par exemple, qui fait plus 50%, c'est-à-dire un chiffre qu'on n'a pas l'habitude de connaître en monétique, plus 50% sur les 10 premiers mois de l'année.
Plus 50% de paiement carte bleue.
De paiement par carte bleue, oui. Mais bon, la Drôme est une région qui, historiquement, pratique les circuits courts, la distribution et les circuits courts. Ils avaient déjà un terreau favorable. Par contre, il y a des départements qu'on voyait peut-être un petit peu moins. Le Cantal, par exemple, progresse de plus 25%. Donc, il y a une vraie tendance sur les circuits courts, et nous, on le constate au travers de nos flux cartes bancaires. Alors, nous, à la Banque Populaire, un des piliers de notre stratégie sur le marché de l'agriculture, je ne vais pas me casser la binette, donc, est un mouvement qu'on a appelé Agri-Acting, en opposition à Agri-Bashing. Et au travers de ce mouvement, on souhaite en fait apporter de la valeur à l'agriculteur, l'agriculture et l'exploitant. Et donc, dans ce cadre, nous prescrivons à nos clients des solutions leur permettant de développer leur activité. Avec pour objectif d'installer un accompagnement gagnant-gagnant. Donc, la commercialisation et la valorisation des produits locaux en circuit court est bien entendu un axe de développement, une opportunité sur laquelle nous accompagnons nos clients en leur proposant des solutions d'encaissement adaptées et sécurisées, dont je vais parler un petit peu tout à l'heure, mais aussi des clés pour développer leur boutique en ligne, communiquer efficacement sur Internet et fidéliser leurs clients.
C'est l'ensemble de la stratégie. Quand on crée une nouvelle business unit, il faut un embarquement en marketing, en stratégie, en
contrat. Voilà, tout à fait. Il faut déjà communiquer, se faire connaître sur Internet.
C'est presque créer une nouvelle entreprise.
C'est peut-être pas une nouvelle entreprise, mais en tous les cas, prendre en compte un nouveau canal de distribution. Et ce canal de distribution, il faut l'accompagner. Je vais parler de l'encaissement qui pour moi, est la solution, on va dire, la plus simple à mettre en œuvre. Mais qui est aussi la plus importante parce qu'elle valide en fait le paiement et elle valide en fait la vente. Et il faut absolument que ça soit fluide, il faut absolument que ça soit simple pour le consommateur et il faut que ça soit sécurisé et sécurisant pour le consommateur.
Avant l'encaissement, la vente n'est pas faite.
Avant l'encaissement, la vente n'est pas faite. Et parfois, enfin, on a connu des époques où le client validait l'ensemble de son panier et arrivait au moment du paiement, faisait demi-tour parce qu'il n'avait pas le bon moyen de paiement en poche ou il y avait une problématique pour payer. Donc, c'est vraiment une étape qui n'est pas la plus compliquée à mettre en œuvre, mais qui est certainement une des plus importantes. Voilà, en fait, on parle d'optimisation du parcours client. Ce dernier doit allier fluidité, rapidité, simplicité et sécurité. Donc, clairement, quand on parle d'encaissement en circuit court, il y a un moyen de paiement qui est incontournable, c'est la carte bancaire. Aujourd'hui, on a 70 millions de cartes en circulation en France. 92% des Français l'utilisent en priorité. C'est le moyen préféré. Le moyen de paiement préféré des Français. Donc, ne pas accepter pour un producteur la carte bancaire, ce n'est pas rédhibitoire. Hein. Par contre, à court terme, il va forcément perdre des ventes à terme. Quoi. Voilà. Donc, nous, on a une forte expérience avec les clients commerçants sur toutes les problématiques monétiques. Donc, aujourd'hui, il existe une large gamme de solutions pour pouvoir accepter les paiements par carte bancaire, que ce soit en proximité ou à distance, puisqu'il faut bien les deux. En proximité, on va s'adresser plutôt à des exploitants ou des agriculteurs qui pratiquent la vente à la ferme, qui pratiquent la vente sur les marchés, peut-être un peu d'agrotourisme, la vente itinérante. Et puis tout à l'heure, on en a parlé, je ne sais plus qui en a parlé, mais on voit de plus en plus des automates dans lesquels, oui, en fait, on loge...
Sébastien Windsor de la PCA,
voilà,
qui en a parlé.
Voilà, tout à fait, où on loge des paniers de maraîchers ou des caissettes de viande. Donc, c'est réfrigéré. Ils s'en installent beaucoup dans les entreprises, dans les comités d'entreprise. Par contre, là aussi, au moment de venir chercher la nourriture, enfin la caissette ou le panier, il faut pouvoir payer. Et donc là, il faut pouvoir aussi accepter le paiement par carte bancaire. Donc en fait, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir encaisser en proximité, pour le commerçant, il lui faut, pour l'exploitant, il lui faut deux choses, un contrat d'acceptation et un terminal de paiement. Le contrat d'acceptation, c'est très simple, c'est l'ouverture d'un tuyau, c'est le tuyau qui va permettre d'accepter les paiements par carte bancaire. Et puis après, le terminal de paiement, ben là, il va falloir se poser deux questions. Ce terminal de paiement, à quoi je vais le connecter pour communiquer avec la banque? Donc, je vais passer forcément par Internet, mais si je suis à la ferme, je vais peut-être me connecter directement à Mobox. Si je suis sur les marchés, je vais peut-être passer par une solution 3G. Et donc, à ce moment-là, il me faudra une carte SIM, il me faudra un terminal qui permet d'accepter ce type de paiement. Il va falloir réfléchir à la maintenance de ce type de matériel, c'est-à-dire que ce type de matériel, il évolue quasiment tout le temps. Les mesures, les évolutions réglementaires sont nombreuses. Et dans ce cadre-là, nous, on propose plutôt aux exploitants de partir sur des solutions louées, de manière à ce qu'ils n'aient plus de préoccupations sur cette partie-là.
D'accord.
Acheter du matériel est souvent très onéreux et peu rentable. Donc, voilà pour l'encaissement en proximité. Maintenant, il y a un mode d'encaissement qui se développe et qui s'est développé encore plus pendant la période de confinement, c'est l'encaissement à distance. Donc, ça continue de progresser fortement en France, les usages se diversifient. J'ai recherché trois chiffres. On a 87% des Français qui ont aujourd'hui accès à Internet. 43 millions achètent aujourd'hui sur Internet. 43 millions, c'est tout simplement plus 4 millions par rapport à l'an dernier. C'est-à-dire que le confinement a fait que 4 millions de consommateurs sont venus en plus sur Internet, acheter sur Internet. Et ce qui bouleverse tout ça, c'est l'usage du smartphone, puisque aujourd'hui, on compte 49 millions de smartphones en circulation. On en parlait encore ce matin. Et en fait, quand on regarde bien, aujourd'hui, on ne va plus sur Internet, on vit sur Internet. C'est-à-dire que quand vous passez aujourd'hui avec votre voiture, près d'un arrêt de bus, vous ferez l'expérience et vous regarderez combien de personnes ne sont pas sur leur téléphone portable. C'est assez.
Vaut mieux compter celles qui ne le sont pas.
C'est assez édifiant. Voilà. Donc, les besoins en termes de paiement à distance sont variés. Puis, alors, franchement, s'il y a un domaine où on a une forte imagination, c'est bien celui-là. Donc, pour ce qui concerne le monde de l'agriculture et de la viticulture, on a la vente à la ferme pour faire du click and collect. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on commande sur Internet et on paye sur Internet et on vient chercher à l'exploitation. On a tout ce qui est agrotourisme pour sécuriser les réservations, c'est-à-dire qu'on va prendre un acompte. La vente en itinérante, là on a du paiement avant livraison. Et puis ce qu'on connaît tous, c'est la vente à distance sur Internet à partir d'un site marchand. Et là l'objectif, c'est d'optimiser les paiements en ligne. Donc il existe des solutions pour tous ces besoins. Donc, bon, comme je vous le disais, le cas qu'on connaît le plus, c'est la vente en ligne. J'ai un site marchand. Je développe un site marchand. Bon, il faudra que je prenne garde à communiquer dessus, à être bien référencé. Enfin, il y a tout un accompagnement. Et le paiement intervient au dernier moment. Et là, il y a des solutions très simples à mettre en œuvre qui sont quasiment des solutions plug and play et qui permettent d'installer la brique de paiement de manière très, très simple. Alors, ça, c'est pour ceux qui ont un site marchand. Maintenant, tout le monde n'a pas un site marchand et tout le monde n'a pas forcément l'organisation pour faire vivre un site marchand, faire vivre les produits. Donc, dans ce cadre-là, il y a d'autres solutions. Mais l'agriculteur peut aussi dire, moi, je veux faire de la vente à distance sans site marchand. Donc, je veux pouvoir proposer, par exemple, mes 5 hectares à partir d'une page Facebook. Je veux pouvoir, sur un cercle de clients, envoyer une promotion à un cercle de clients par email. Je suis un imprimeur qui propose son panier gourmand sur les réseaux. La ferme auberge qui prend une réservation par téléphone et qui souhaite garantir la réservation et encaisser un acompte, le vigneron qui communique sur Instagram sur ses nouvelles cuvées. Dans ces cas-là, il existe des solutions aussi pour encaisser à distance, des solutions sécurisées et garanties. Sécurisées, il n'y a pas de sujet, maintenant toutes les solutions de paiement à distance sont sécurisées. Garantie, il faut faire attention, la garantie de paiement est importante. Aujourd'hui, quasiment toutes les solutions offrent la garantie de paiement. Ce n'était pas encore le cas il y a quelques années. Donc, pour ces cas-là, il existe des outils très simples à mettre en œuvre qui vont permettre de créer ce qu'on appelle des liens de paiement. Et ces liens de paiement, on va pouvoir les pousser aux consommateurs via des canaux de communication à votre choix, SMS, email, WhatsApp, Messenger. En fait, le consommateur reçoit un email ou reçoit un SMS, clique sur le lien et là, il arrive sur une interface, un formulaire de paiement totalement sécurisé où il va être amené à saisir ses coordonnées carte bancaire. On peut aussi ce lien le mettre, on peut créer des boutons de paiement qu'on va pouvoir mettre sur Facebook. J'ai un exemple, puisque c'est plus simple quand on donne des exemples, j'ai un exemple où on a une fromagerie qui vend du fromage et de temps en temps, elle fait une promotion au sein de sa communauté Facebook. Donc, elle dit, j'ai par exemple 25 hectares à vendre. Donc, le bouton de paiement, l'internaute, le consommateur va pouvoir réserver via le bouton de paiement, laisser son adresse de livraison. Et surtout, le système va aussi gérer le paiement et va aussi gérer les stocks. C'est-à-dire qu'au bout de la 20e, le lien de paiement tombe. Donc, Il y a plein de possibilités pour simplifier en fait le paiement et pour simplifier la vente à distance. C'est des solutions qui sont extrêmement simples à mettre en œuvre. Il faut 2 minutes pour les mettre en œuvre. Et ça peut répondre à des besoins d'agriculteurs qui souhaitent faire de la vente à distance sans forcément s'embarquer sur des solutions très compliquées.
Parce que c'est vrai que c'est des solutions simples, c'est des solutions entre guillemets tout public, c'est des solutions qui sont très peu chères.
En tant que tel,
c'est très peu cher.
Non, c'est pas cher.
Par contre, ça nécessite un minimum de compétences. Est-ce que vous accompagnez vos clients agriculteurs sur cette montée en compétences? Vous avez fait un webinaire national il y a une dizaine de jours, les cinq principes pour réussir son passage au circuit court. Est-ce que aujourd'hui, vous êtes en capacité de donner des éléments de méthode, de former au sens léger vos clients agriculteurs?
Alors, ce qu'on fait, déjà les former sur l'outil de paiement, bien entendu.
Oui.
L'outil de paiement, l'outil d'encaissement, c'est très simple. Après, en termes de communication, en termes de fabrication de sites internet, en termes de fidélisation de nos clients. On a noué des partenariats avec des sociétés où, par exemple, on a noué un partenariat avec CoFarming pour pouvoir en fait mettre en avant des solutions qui vont faciliter la vie du client et qui vont lui permettre de monter en compétence. Voilà.
Super.
J'espère que j'ai été complet. Que...
Il me semble. Je n'ai pas idée que vous ayez oublié grand-chose. Au contraire, tout va bien. Non, c'est parfait, mais c'est important. Effectivement, la bonne nouvelle, c'est que ce frein du paiement, de l'encaissement, il est définitivement levé. Voilà, que ces ventes-là, donc, quelque part, sont largement sécurisées. On l'a vu hein, par rapport à des marchés. Alors, il faut garder nos marchés parce que ça anime nos villages aussi. Puis, c'est encore autre chose. Mais ça vient s'ajouter. Et quelque part, effectivement, là, on a une recette sécurisée. Le paiement n'est plus ce frein-là.
Les canaux de distribution ne viennent pas en opposition. Ils s'additionnent.
Ils s'additionnent tous. Ouais. Super. Merci beaucoup, merci Laurent Nègre. Christophe Romero, donc de votre côté Groupama, on a vu votre film sur les valeurs et vous êtes bien là-dessus parce que vous avez développé une stratégie RSE, hein, responsabilité sociale et environnementale, dont le circuit court fait explicitement partie aujourd'hui.
Oui, alors le fil de nos innovations dans le secteur et notre ADN agricole. Fait que déjà en 2012, on a raisonné sur les liens, les réseaux et les circuits courts à travers un outil, un site qui s'appelle Grand Village, qui tendait gratuitement à faire site vitrine de chaque distributeur parmi nos sociétaires de produits directement du producteur au consommateur. Et évidemment, vous l'avez expliqué, les problématiques de logistique, les problématiques d'encaissement en 2012, c'est déjà un univers très lointain pour le milieu de l'innovation des marketplaces, notamment. Cette vitrine-là en est restée à la page de la communication. Mais les innovations peuvent des fois avoir une résurgence d'intérêt en fonction de l'actualité. Et l'actualité depuis, c'est aussi le RSE. Et on s'aperçoit qu'on peut innover pour fournir des services à un client, un sociétaire, à Groupama. On peut innover pour pouvoir avoir soi-même une qualité de service plus performante, mais on peut aussi innover pour avoir une RSE de meilleure qualité. Et en fait, l'outil Grand Village, par exemple, c'est le recensement pour nous aussi de fournisseurs potentiels. Et on se fait fort à Groupama Doc de redistribuer. Alors évidemment, c'est la vie naturelle d'une entreprise, mais 500 millions d'euros sur notre territoire chaque année. On s'y fait fort avec les strates de nos élus, les élus locaux, des caisses locales, des caisses des fédérations départementales, qui sont toujours vigilants sur l'emploi du denier commun des sociétaires de Groupama en territoire et en circuit court. Et donc, j'ai quelques clins d'œil, mais je sais qu'on a régulièrement des contacts avec notamment des partenaires autour de la table pour pouvoir être consommateurs de leurs produits. Grand Village, c'est aussi ça, c'est comme ça qu'on veut aussi l'exploiter, c'est trouver les personnes qui sont avec nous, à nos côtés, qui nous font confiance, et essayer d'exploiter et de recenser en data, ne serait-ce que ça, et en vitrine, quels sont les services qu'ils peuvent proposer à Groupama DOC, et du coup, par lien direct avec le circuit court. Et là, on est en termes plus de, non seulement de distance, mais aussi de nombre d'intervenants.
Et là, vous êtes dans la position d'un consommateur, quelque part, des circuits courts existants.
Complètement.
C'est-à-dire que vous devenez client et vous faites, vous vous dites, bah, tiens, c'est un outil indispensable à ce qu'on pourrait appeler les plans de relance locaux. Hein, c'est sur le territoire. Et nous, on veut contribuer à ça en achetant par ce biais-là.
Exactement.
C'est ça la philosophie du
truc. Évidemment, là encore, je pense que dans l'état d'esprit, et nos consommateurs, les consommateurs en général, et on s'en est aperçu à plusieurs reprises, notamment au confinement, on est tous dans cette démarche initialement prévue, mais on l'a dit, des fois, on finit à 17h, 18h, 19h, 20h, on n'a pas le temps, on a plein d'obstacles finalement à la réalisation de ce qu'on estime comme notre consommation parfaite. Oui. Et donc, Grand Village, ce serait un véhicule pour nous qui nous permettrait d'être outil de RSE, d'être facilitateur, de concrétiser cette volonté d'être un consommateur durable, un consommateur responsable.
Voilà. Et est-ce que, dans l'autre sens, vos adhérents, vos sociétaires, est-ce que vous les encouragez sur cette question des circuits courts? Et est-ce que vous les accompagnez quand ils ont envie de se lancer? Alors, sur le volet prise de risque, parce que c'est quand même le cœur de votre métier, c'est-à-dire aujourd'hui, on prend des assurances sur l'informatique, on prend des assurances sur la cybersécurité, hein, je sais que vous en... Voilà, il y en a. On prend des assurances, on assure aussi une nouvelle activité économique. Comment vous les aidez à avancer sur ce volet-là?
Alors, je le disais ce matin en introduction de nos interventions. Nécessairement, on est tellement engagé par le fait que nous soyons nous-mêmes le fruit d'une innovation agricole il y a plus de 100 ans, hein, le mutualisme. On est tellement engagé depuis un siècle dans ce domaine d'activité qu'on a accompagné de fait les innovations en les agrégeant et aussi en les assurant. Eh bien, c'est le cas de la cybersécurité. On a entendu plusieurs fois, à plusieurs reprises, hein, la valeur des data de nos exploitants, la valeur des data, la maîtrise de ces data. Hein. Mais tout ça, ce sont des éléments où plusieurs assureurs essayent hein, de trouver les clés. Nous y sommes de fait aux côtés notamment des exploitants et nous avons des solutions parce que notre prise de risque, elle se situe sur notre cœur et nos racines, c'est l'activité agricole. Donc oui, il existe des solutions de protection qui permettent d'amortir, hein, évidemment, les risques qu'on peut avoir à se lancer. Après, on n'est pas dans l'incitation, bien entendu, parce que nous savons rester à notre place, on est dans le conseil, c'est-à-dire qu'on répond à quelqu'un qui nous pose sa problématique et on oriente sur les solutions les plus adaptées qui sont à notre main.
C'est clair. Grand Village, donc on sent bien qu'il y a une V1, il y a quelque part une V2.
On est vraiment en train de faire une V2. Est-ce qu'elle va changer? Non ou pas? Toujours est-il que quand même, elle existe encore. Et ouais. Toutes les semaines, vous avez des actus publiés. Alors, on est en vitrine, mais on est aussi en promotion des bonnes pratiques, promotion de ce qui se passe sur nos territoires. Alors, vous allez avoir aussi, que ce soit les nouveaux exploitants, les personnes qui ont changé d'activité, qui ont diversifié leur activité. Et vous allez avoir un blog et des diffusions sur les réseaux sociaux, le LinkedIn, le Twitter, le Facebook, où régulièrement, nos sociétaires sont mis en valeur avec quand même un canal de communication de niveau professionnel pour présenter leur exploitation, leur production, leur mode de production et partager ces savoir-faire.
Des questions pas forcément idiote d'ailleurs. Si je fais du circuit court, je suis producteur, je ne suis pas sociétaire Groupama, est-ce que je peux effectivement proposer mon offre sur Grand Village?
Ça s'appelle l'inclusion à Groupama. Pour nous, le mutualisme, c'est aussi servir le territoire au sens large. On est dans une relation de fait de gagnant-gagnant. C'est de l'inclusion. Donc ce service, il est toujours accessible gratuitement à n'importe quel distributeur de vente directe. Alors, avec, par exemple, les vrais écarts sur la garantie, notamment du produit du label, parce qu'on ne garantit rien, mais on est évidemment
vigilant.
Et le bon sens rural qui nous anime. Mais on ne garantit rien, mais on a une liberté d'accès. Et aujourd'hui, on a, je le regardais tout à l'heure, quand on tape le Cantal, on est 75 environ ventes directes recensées sur le département, sachant que l'algorithme est malin, il fait du limitrophe, c'est-à-dire que bon, pour trouver du
il est 12, inclusif, on va dire.
Voilà, c'est ça, il est inclusif aussi. Donc entre 50 et 70, mais sans qu'on ait une réelle démarche. Et, bon, j'entendais, moi, mon domaine, vous l'avez compris, c'est le commercial. J'entendais un petit peu le fruit de nos échanges maintenant, un petit peu en amont de cette intervention-là. Je pense qu'il ne faut pas oublier la force commerciale humaine. On parle de marketing, on parle de digital, on parle de communication. Mais vous savez, en tant que consommateur moi-même, et vous l'aviez justement rappelé lors de mon installation, vous avez vu que la carrure fait que je suis un bon consommateur des produits locaux. En tant que consommateur, je le rappelais tout à l'heure, je me dis, moi, si un soir, un voisin m'appelle et m'explique qu'il a quelque chose à me distribuer et qu'il vend directement, sincèrement, il y a très peu de chances que je dise non. Je pense qu'il y aura un taux de concrétisation colossal quand on mettra aussi une force de vente humaine qui sera capable d'être orientée ainsi. Si je vois la publicité, il va falloir que le timing soit parfait. Il va falloir que je me pose la question du comment, auquel vous essayez de répondre très brillamment. Mais si c'est la force commerciale qui vient me le chercher, j'ai tellement cette tendance, elle est tellement marquée, que je pense qu'il y a aussi peut-être quelque chose à jouer avec lui-même, dans la force commerciale.
Merci. Merci Christophe Romero. On va faire un saut de puce jusqu'à Boissé, en Haute-Loire, pour retrouver Fanny Agostini et Henri Landès, qui sont avec nous, qui ont créé, donc il y a presque 2 ans maintenant, le fonds de dotation Landestini. Bonjour à tous les deux. On est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui dans cette salle, Roger Besque, que vous connaissez, puisque c'est là que vous avez signé la convention Marc Auvergne, mais vous ne la reconnaîtriez pas, parce qu'elle est devenue magnifique. L'idée de ce temps qu'on passe ensemble, c'est quel est votre regard, et puis peut-être aussi le regard des jeunes que les jeunes générations portent sur les circuits courts, et comment ça s'inscrit quelque part dans la philosophie qui est celle de Landestini pour une alimentation saine et durable.
Bonjour à tous et merci de nous accueillir au Smart Agri Forum. Bonjour Sébastien, je reconnais bien sûr Bruno, on vous a tous écoutés. Bonjour Pauline, bonjour Jean-Baptiste, bonjour les autres. Donc on est à Boissé ici en Haute-Loire avec Henri. Le choix de s'implanter en Auvergne, ça a été un choix important, mais un choix finalement qui n'a pas généré de débat. Je vais répondre à votre question, mais est-ce que vous me permettez de sortir de l'Auvergne, de m'éloigner un petit peu du Cantal et de vous donner quelques chiffres globaux?
Imaginons une seconde que je dise non. C'est juste inenvisageable. Bien sûr, Fanny. Bien sûr, Fanny.
Bien embêté. Je vais prendre ma casquette de journaliste aussi, puisque je suis cofondatrice de Landestini et également j'interviens à Europe 1 le matin pour parler de ce monde en mouvement, et bien sûr que le digital fait partie de cette mise en mouvement du monde et même de l'accélération de ce mouvement. Et il se trouve que j'ai parlé effectivement très récemment sur l'antenne d'Europe 1 des circuits courts et de la digitalisation, au regard du dernier confinement surtout, puisqu'une étude est sortie sur 26 000 artisans et producteurs qui ont été interrogés sur la façon dont ils ont vécu ce premier confinement et comment surtout ils se sont organisés pour écouler leur production. Il se trouve que ceux qui se sont digitalisés, bien sûr, ont tiré leur épingle du jeu, puisque, on le sait, hein, bien sûr, la restauration collective était au point mort, la restauration tout court d'ailleurs, certains marchés fermés. Et c'est vrai que sans identité digitale, les producteurs, les artisans ont du mal, ou ont eu du mal, pour ceux qui n'étaient pas effectivement munis de cet outil, à écouler leur stock. Et ça a été vraiment un gros problème pour ceux qui n'avaient pas le digital sous la main. Or, ce que l'on voit effectivement à travers les chiffres, c'est que la vente en drive a bondi à l'échelle nationale de 56%, me semble-t-il. Oui, 56%, 16% pour les points relais. Et puis, les systèmes de circuits courts qui étaient auparavant déjà plébiscités, comme les AMAP, ont vu aussi un boom dans leurs inscriptions et dans l'arrivée de nouveaux adhérents. Donc ça, ça a été un point positif de ce dernier confinement. Je parle pas de celui en cours, mais je parle du printemps dernier. En revanche, je tiens à parler effectivement d'un frein. C'est que communiquer sur les réseaux sociaux, avoir recours au digital n'est pas à la portée non plus de tous les artisans et de tous les producteurs parce que c'est parfois chronophage, parce que ça demande aussi une certaine maîtrise des outils de communication. Et ça, c'est effectivement lors de cette étude ce qui a été assez fortement dit, c'est que il y a une partie des producteurs et des artisans qui ont du mal à aborder le virage du digital, qui ne savent pas par quelle boule prendre en tout cas, et qui se sentent un peu lésés, en tout cas sans accompagnement, et c'est peut-être ce vers quoi on doit tendre maintenant en partant de cet enseignement. Accompagner les producteurs et pourquoi pas les former et venir en soutien ou leur offrir des outils simplissimes pour se faire connaître et pour écouler leur production et pour générer de l'engouement et faire en sorte que ces circuits courts prennent une place encore de plus en plus importante.
On le voit, nombreux agriculteurs. Je te laisse rebondir, Sébastien.
Je rebondis beaucoup mieux que moi.
Non, si tu as une question de rebond, n'hésite pas, de toute façon on répondra. La réalité, on a rencontré de nombreux agriculteurs qui sont très friands du numérique, du digital, justement pour favoriser le lien avec leurs consommateurs, et d'autres qui ne voient pas nécessairement ce lien justement avec comment le numérique les rapproche des consommateurs. Et c'est une des missions de notre incubateur Landesni Cantal Auvergne. On tient encore une fois à remercier le conseil départemental, la région, même les fonds fédères pour tout ce qui est de cet accompagnement de nous dans ce projet qui, selon nous, doit accompagner l'expérience humaine dans le numérique et dans l'agriculture durable. C'est-à-dire que le numérique nous permet de créer du lien entre des personnes déjà partout sur le territoire, ne serait-ce que dans Landesni, parce qu'on est nombreux en télétravail. On a notre équipe sur place grâce à Emma Castel et Emeline,
qui
est dans la salle. Oui, c'est pour ça que je tiens à la saluer et la féliciter encore une fois d'avoir changé de vie parce qu'elle a quitté Paris il y a encore moins d'un an pour aller s'installer, pour mener ce projet avec nous. Et ce qui était courageux, mais elle n'a rien à redire en ce qui concerne la décision parce que tant elle adore le Cantal. Donc ça aussi, c'est signe de votre chaleureux accueil et d'un magnifique territoire. Mais le télétravail nous permet, nous, de bien fonctionner dans Landesni, d'être résilients nous-mêmes face à une crise sanitaire et à un confinement qui risque de se reproduire, et permet aussi d'avoir des technologies pour accompagner des entrepreneurs au sein de l'incubateur, d'être performants, que ce soit des technologies que vous connaissez bien, que vous utilisez d'ailleurs pour avoir un Smart Agri Forum maintenu et performant pendant le confinement. Nous allons nous doter, grâce à votre soutien, d'outils très performants pour accompagner de manière virtuelle aussi les entrepreneurs. Cependant, le revers de cette médaille, c'est que le numérique, selon nous, ne marche pas si ça ne recrée pas l'expérience humaine et le contact direct. C'est pour ça que le numérique est tellement intéressant pour les agriculteurs, parce que nous, par exemple, dans les projets que nous accompagnons dans l'incubateur, souhaitons que le numérique soit une façon de recréer le lien, parfois physique, et au moins dans la discussion, entre le consommateur et l'agriculteur. L'application que nous accompagnons, Manger près de chez vous, de l'entreprise Terre Attitude, vise faire cela, c'est-à-dire donner une vitrine et une plateforme numérique à des agriculteurs qui font de la vente directe, pas nécessairement juste à la ferme, mais aussi sur les marchés, pour qu'ils puissent être visibles à des consommateurs, pour que ces consommateurs ensuite les rencontrent et achètent directement leurs produits. Donc, il n'y a pas de transaction via l'application, ce qui a aussi ses vertus. Le revers de la médaille de trop digitaliser en enlevant l'aspect humain, en enlevant ce contact humain, c'est que si une crise économique ou une crise sanitaire se reproduit, nous ne pouvons pas nous reposer juste sur une circulation virtuelle de la communication. Ce qui a été dit par Jean-Marc Jancovici, qui est un scientifique avec qui je ne suis pas toujours d'accord, mais qui a très bien analysé la situation. Il y a des centaines d'années, on était beaucoup moins performants quand les choses vont bien. Aujourd'hui, on est beaucoup plus quand les choses vont bien. Mais quand les choses vont mal, il y avait une certaine résilience, tant les communautés économiques et sociétales étaient resserrées entre les individus, et une certaine autonomie des savoir-faire, une production et une consommation locale existait. Et nous devons donc utiliser le numérique pour recréer cette résilience locale, pour que, même pas en attendant une nouvelle crise, nous soyons capables d'être performants sur le plan économique. Et ça, c'est super important, et le numérique est une vraie voie pour cela. Mais il ne faut pas se dire que le numérique est une délégation de la relation humaine et de la relation commerciale et économique entre les individus. C'est une complémentarité et un renforcement. Et cela peut paraître paradoxal, étant donné que c'est quelque chose qui crée une surface virtuelle entre les personnes. Pas du tout. C'est justement quelque chose qui doit encore créer ce lien. Et la troisième chose que nous souhaitons dire, que je souhaite dire en complément de ces analyses de Fanny à l'échelle macro, c'est que les jeunes entrepreneurs et consommateurs, effectivement, ils ont pris ce virage. Alors, que ce soit les étudiants que j'ai à Sciences Po, à HEC, à l'Université de Clermont-Ferrand, Blaise Pascal, à l'IEP Toulouse, avec qui on travaille sur les questions agricoles et alimentaires, j'ai vraiment envie de dire, c'est tellement maintenant acquis que demain, l'agriculture doit être dans les circuits courts, au moins en grande partie, et dans une agriculture de proximité, que revenir en arrière, soi-disant, est beaucoup plus risqué que cette idée de revenir en arrière par rapport à une agriculture performante, etc. C'est-à-dire que le débat sur est-ce que revenir vers une relocalisation de l'agriculture, c'est revenir en arrière, pas du tout. Revenir en arrière serait de remettre cela en question, justement. Et la question de la diversité des produits, c'est une façon de contourner toute la facilité que nous avons acquise et que nous avons appréciée excessivement, d'ailleurs, dans notre consommation. Je m'explique là-dessus. On a décidé depuis des décennies, alors c'est beaucoup malheureusement l'influence américaine de la nourriture. Je suis franco-américain, je suis le premier à me mettre en critique de cette américanisation du système alimentaire. La facilité est qu'on aime le plaisir grâce à des produits très sucrés, très salés, etc. Grâce à des produits qui sont très transformés. Là, le lien entre la qualité du produit, le producteur et le consommateur, il est catastrophique, il n'y en a plus. Et recréer du lien avec des circuits courts, c'est aussi permettre de valoriser quelque chose d'autre dans le produit pour contourner un petit peu ce plaisir très artificiel qui a été vraiment martelé par des grandes entreprises et ils ont réussi à le faire. Et même dans nos interventions dans les écoles, on voit qu'après 3 heures d'intervention sur l'alimentation durable, etc., avec certains jeunes, ils sortent ensuite un snack de produits complètement transformés, super sucrés, etc., le Kit Kat et tout, et le tralala. Et on ne dit pas qu'il faut que ça disparaisse demain, mais c'est juste qu'il y a toujours cette qualité du produit que nous perdons quand on n'est pas autant dans le circuit court ou l'agriculture et la consommation de proximité. Et là-dessus, pour nous, l'avenir, c'est la diversité des produits, comme c'est la diversité des plantes et la diversité des animaux, la diversité des fermes d'élevage et les races, la diversité des pratiques entre les éleveurs. Cette diversité-là, elle est beaucoup plus visible quand on est en circuit court. Et c'est pour ça que nous pensons que c'est une mission principale de l'incubateur et de Landestiny au sens large.
Et cette diversité, elle passe par un thème d'ailleurs qui est cher à Fanny au fil de ses chroniques sur Europe 1, c'est la saisonnalité, c'est des produits de saison. En fait, c'est ça qui nous permet de retrouver cette diversité alimentaire parce qu'on est dans la proximité et dans cette variation des saisons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas manger des bananes toute l'année quand on regarde le bilan carbone.
Attendez, Sébastien, je vais vous faire la chronique directement. Évidemment, mais c'est-à-dire que le concept de hors-saison est un concept qui est pas si lointain que ça. Je crois que même que c'est les Américains qui ont un peu homogénéisé tout ça et que…
Le meilleur et le pire aux États-Unis.
Évidemment, excuse-moi encore de pointer du doigt ton pays, mais il est vrai que… Et puis, c'est un marqué… Avant, manger des cerises à Noël ou des fraises, que sais-je, était un marqueur social. Aujourd'hui, effectivement… Alors, c'est marrant, je vais vous donner une anecdote extrêmement personnel. Hier, nous étions chez la médecin avec Henri pour amener notre petit bébé, notre petit nourrisson de 6 mois pour la visite de contrôle. À 6 mois, il en est à la diversification, ce petit. Donc, on commence à lui faire goûter certaines petites choses. Il se trouve qu'on a encore des carottes dans le jardin, quelques courges et potirons. Donc là, on commence à faire des petits repas pour lui. Or, cette médecin a commencé à me dire qu'il fallait absolument qu'il teste aujourd'hui aujourd'hui les pêches, pour des soucis d'allergie, qu'ils testent effectivement des trucs hyper exotiques et pas du tout de saison, parce qu'il en allait de sa santé à ce petit et que c'était le moment.
La dispute qui s'est ensuite.
Alors, j'ai absolument rien dit, mais je trouve que là, on est sur un cas extrêmement précis, mais un exemple aussi typique de cette déconnexion entre alimentation et santé.
Elle a appelé le ministère de la Santé.
et oui, effectivement, nous devons, pour retrouver du plaisir, comme le disait Henri, comprendre effectivement qu'il y a une saisonnalité des fruits et des légumes qu'on a affiche maintenant que tout un chacun affiche sur le frigo et pas seulement les bobos, voilà, le calendrier des saisons des légumes et des fruits. Or, il y a une saisonnalité aussi pour les fromages, par exemple, et c'est important de comprendre tout ça, qu'un fromage ou le lait sera plus ou moins riche en graisse en fonction de la saison où l'on se trouve. Si la vache en question a mangé du fourrage bien sec ou de l'herbe verte du printemps, je crois que voilà, ce n'est pas de l'ordre du détail que de se reconnecter avec ce genre de savoir et de connaissances. C'est extrêmement important à mon sens, aussi bien que savoir lire, compter et que sais-je.
Une dernière question, vous travaillez avec des enfants, vous intervenez dans des écoles à Boissé en France, mais aussi dans le Bronx, et vous nous disiez, voilà, pour les jeunes générations, c'est... quelque part, c'est irréversible, ce souci d'une alimentation saine, même s'ils ressortent effectivement le snacking en fin d'intervention. Mais ma question, c'est, est-ce que vous sentez que ça joue un rôle pour les enfants que vous rencontrez, de se dire qu'ils savent d'où vient ce produit qu'ils vont manger, voire de savoir qui l'a produit? Est-ce que vous travaillez sur ce lien-là?
Oui, bonne question, Sébastien, et oui et non. C'est-à-dire que, malheureusement, et on le dit dans le préambule de notre projet Champion Alimentation Durable que tu évoques, il y a une corrélation, parfois presque un lien de causalité entre malnutrition, manque de connaissances sur la qualité, la provenance, la saisonnalité, l'aspect éco-responsable du produit et le niveau socio-économique des jeunes, malheureusement. Et c'est pour ça que travailler avec les familles, c'est nécessaire. Comprendre le lien entre territoire, développement territorial, économique, répartition de la richesse, ou plutôt quels impacts vertueux dans la distribution de la richesse grâce à des entreprises de territoire. C'est pour ça qu'on est très attaché par ailleurs dans l'incubateur à accompagner des entreprises pérennes sur le territoire, aussi innovantes technologiquement soit-il, et aussi duplicable dans leur technologie soit-il, pour sortir du territoire. C'est les entreprises qui doivent bénéficier du territoire que nous accompagnons, et cela permet à long terme ou même à court terme de régler ces problèmes d'inégalité. Et la réalité, c'est que dans le Bronx, dans le territoire défavorisé qui est celui du lycée DeWitt Clinton, qui est en contact avec le lycée agricole d'Aurillac l'année dernière, avec qui c'est très compliqué de relancer la discussion parce qu'ils sont dans une misère logistique à cause du confinement aux États-Unis qui est bien plus frappé proportionnellement que la France. Mais passons là-dessus. Il y a un manque de connaissances et donc un manque d'envie de consommer des produits locaux, des produits sains et de qualité, qui est flagrant. Alors que dans l'école primaire à Châtel-Guyon…
Tu peux quand même dire qu'effectivement, parce qu'on ne s'imagine pas, toi qui connais bien New York et ses environs, qu'il y a des produits locaux à New York, que les environs, les Catskills et les environs de New York sont extrêmement pourvus en fermes.
New York a plus d'agriculture urbaine que toutes les autres villes des États-Unis et peut-être de la plupart des grandes villes au monde.
Et en périphérie directe…
C'est un État très agricole par ailleurs. Comme l'Île-de-France est 50% agricole, tout le monde l'oublie, on pense à Paris, c'est urbain, etc.
Et qui touche le New Jersey, réalité, qu'on appelle le Garden State.
Oui, oui, tu fais bien de le dire. Et New York, c'est la grosse pomme. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Donc, il y a un lien, une corrélation entre les élèves et leur situation géographique, leur accès à l'information et à la connaissance, et aussi, malheureusement, à leur situation socio-économique, davantage, bien sûr, ce dernier point, davantage en fonction de quelle a été la responsabilité politique dans le développement du territoire. S'il y a une responsabilité politique sur le territoire qui ne voulait pas laisser une prédation par des grandes entreprises arriver avec des produits de la facilité, du confort, du très, très bas prix, sur le dos d'ailleurs des agriculteurs, sur le dos de transformateurs locaux et ainsi sur le dos des jeunes qui ont consommé mal et de leurs familles. Si la responsabilité politique était consciente de cela et voulait lutter contre cela, et bien il y a moins cet aspect-là. Mais malheureusement, il y a cette différence. Et ce que je disais, c'est qu'on travaille aussi avec des élèves d'écoles primaires au Puy-en-Velay ou à Châtel-Guyon, et on est frappé par leur volonté justement de consommer des bons produits et la facilité avec laquelle ils parlent de ce que c'est une alimentation durable. Donc, c'est trop en fait divergent en fonction des facteurs territoriaux, sociaux, économiques. Quelle est leur volonté et leur connaissance sur ce que sont des bons produits? Et au lycée agricole d'Aurillac, effectivement, on a des très bons retours en ce qui concerne leur connaissance sur les produits du terroir. Par contre, il y avait aussi des grandes réticences sur l'importance de rééquilibrer les protéines entre animales et végétales. Et nous sommes les défenseurs de la viande parmi les écologistes, vous le savez, nous ne serons pas végétariens. Nous respectons les végétariens ou même les véganes, mais nous ne pensons pas que c'est la solution collective pour demain. Et que nous savons que l'élevage est primordial pour entretenir paysage, interaction entre les animaux et les plantes, avoir des engrais naturels, une bonne nutrition équilibrée, etc. Mais il faut aussi penser aux protéines végétales et c'est pour ça que nous félicitons le Cantal pour son travail sur l'AOP de la lentille de Saint-Flour par ailleurs. Voilà, je vais remettre la parenthèse là-dessus, sinon je parle trop.
Merci beaucoup. C'est très clair, on est dans cette perspective, on sent bien qu'il y a un mouvement de fond quand même qui ne reviendra pas en arrière, que même si on a des hauts, des bas en post-confinement, qu'on quitte un peu le circuit court, on l'a vu avec Alexia et Pauline, ben finalement il y en a plus qui restent que ceux qui s'en vont, et voir ça rayonne au-delà, on le voit, les jeunes générations sont sensibles à ça. Je trouve que c'est une bonne manière de conclure ce Smart Agri Forum en donnant le mot de la fin et la conclusion à Bruno Faure, qui a été avec nous 90% comme le lui permettait son agenda avec nous, et très attentif. Et merci encore, Président, d'avoir permis à ce Smart Agri Forum de se tenir, parce que ce n'était pas évident dans les circonstances que nous rencontrons, mais en voyant qu'effectivement, le sommet de l'élevage, le salon de l'agriculture, tous les lieux et les temps de retrouvailles du monde agricole étaient supprimés, bien, vous avez souhaité, ici dans le Cantal, maintenir cette réflexion, et je vous en remercie.
Oui, merci Sébastien, mais je crois que les discussions qu'on a eues, on voit toute la difficulté des circuits courts, des ventes directes, parce que quel est l'objectif? On n'a pas tous le même. On a des gens, effectivement, qui vont se dire, je préfère, enfin, si je vais acheter local, c'est pour l'environnement. Très bien, il y en a d'autres, c'est pour la santé. Et puis pour les agriculteurs, c'est quoi? C'est quand même pour avoir de la plus-value. Donc, on n'a pas tous les mêmes intérêts, effectivement, ou tous la même finalité. Je crois qu'il faut se l'avouer pour que tout ça fonctionne bien. Alors, c'est vrai que le client a toujours raison. On a bien compris pourquoi je vais acheter là, parce qu'on a dit, voilà, le drive, j'ai pas de temps, il faut aller vite. C'est pour ça que le drive est intéressant. On sait pas s'il y a d'autres intérêts, mais on répond à un besoin. On s'aperçoit qu'effectivement, il faut pouvoir payer par carte, parce que sinon, j'y vais pas non plus. C'est de la simplicité aussi. On s'aperçoit que si on veut que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un peu toute la gamme de produits. Donc ça, c'est je veux aller vite également. Et puis, je reviens sur ce côté logistique quand même. Pour que ça fonctionne, il faut que l'agriculteur s'y retrouve, qu'il y ait une plus-value et qu'il prend en charge effectivement ce coût de logistique. Et là, au niveau de la société globale, on voit très bien tous les grands faiseurs. Voilà, souvent maintenant, c'est le transport gratuit. Et transport gratuit, mais il y a bien quelqu'un qui le paye, ce transport. Et je crois qu'aussi, culturellement, enfin, ou d'un point de vue marketing ou autre, il faut que les agriculteurs, il faut que les organisations collectives arrivent à gérer ça. Parce que, comme je le disais, la Chambre d'agriculture met un camion à disposition, mais quelqu'un l'a payé. Le département met un chauffeur à disposition, quelqu'un le paye aussi. Et à la fin, si on veut que tout le système fonctionne, il faut que toute cette filière soit à même de supporter ses charges. Voilà, donc c'est tout le travail qu'il y a à faire. Alors, c'est en construction, et puis, j'allais dire, tous les pouvoirs publics ou tous les intervenants, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités locales, que ce soit les professionnels, on doit effectivement communiquer pour arriver à sensibiliser un peu plus de clients potentiels pour venir acheter directement, même si on sait très bien, et je reviendrai à une question que vous avez posée, que ça ne correspond, enfin, ça n'est qu'une branche des agriculteurs. Je ne sais pas, dans le Cantal, ça doit être 5 à 8%. Je ne dois pas être très loin des opérations, même si nous, on est pas mal développé, parce qu'on a beaucoup de producteurs fromagers qui transforment,
oui,
et qui vendent un peu directement. Mais on est 4000 agriculteurs. S'il y en a 5%, ça fait 200, 8, voilà, ça doit être dans cette fourchette-là qui vend directement. Donc, c'est bien qu'une branche de l'agriculture. Ceci dit, c'est important pour nos territoires. Et puis, il y a des intérêts, que ce soit au niveau sanitaire ou au niveau environnemental, on en est tous convaincus. Donc, c'est un enjeu, j'allais dire, majeur, mais on s'aperçoit que c'est très transversal sur les technologies à mettre en place, sur la communication et sur tous les outils à mettre en place. Alors pour ça, je vous proposerai qu'on se retrouve l'année prochaine pour arriver à mesurer si nos drives se développent, si on arrive à avoir plus de producteurs et si on arrive à développer de nouvelles formules de mise en commercialisation, d'inclusion, même si c'est un mot que moi j'apprécie pas bien, inclusion, parce qu'on le met à toutes les sauces maintenant. J'ai tendance à dire que l'inclusion, à force de trop en faire, on exclut les gens, quoi. Donc voilà, mais ça, ce sont des difficultés de langage. Voilà, mais en tout état de cause, je vous donnerai rendez-vous pour l'année prochaine.
Merci, merci Président. On applaudit nos panélistes, ici et là-bas. Merci à la Marne, merci à la Haute-Loire de nous avoir prêté Fanny et Henri. Donc rendez-vous l'an prochain, on fera probablement un point sur l'activation du plan de relance de 1,2 milliard d'euros que nous a annoncé ce matin Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture, et sur la mise en œuvre avec les chambres d'agriculture, avec les départements qui sont à la manœuvre partout en France. On sent bien que ce binôme département-chambre d'agriculture va être à la manœuvre pour transformer vraiment ce plan de relance national en activateur de réussite et de relance effective pour l'agriculture. Peut-être faire évoluer son visage, peut-être aller vers la French Agri, qu'on a un tout petit peu évoqué ce matin avec le ministre, mais très très rapidement. Je ne suis pas sûr que ce soit sa priorité du moment, on peut l'entendre. Mais en l'occurrence, quelque chose est en train de se passer. Et merci à tous, merci à nos partenaires, merci encore au département, merci à la Chambre d'agriculture du Cantal d'avoir permis à cet événement de se tenir. Merci à vous qui nous avez suivis en ligne. Vous étiez au total aujourd'hui 382 participants partagés entre la diffusion directe sur le site internet et notre chaîne YouTube. Donc merci beaucoup. L'an dernier, on était une centaine en présentiel. Donc l'audience petit à petit avance. Et puis ce qui est certain, c'est que ceux qui nous regardent sont des gens qui sont impliqués, concernés et qui vont eux-mêmes peut-être, je l'espère, se nourrir des contenus que nous mettrons en ligne dès la semaine prochaine. L'ensemble des vidéos par séquence seront en ligne sur le site et disponibles en replay, comme on dit. L'ensemble des présentations sera également disponible et téléchargeable à volonté pour bénéficier de l'expertise de tous et chacun. Voilà, merci encore. Passez une très bonne fin de journée et prenez soin de vous.